les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Band of Brothers, aujourd'hui mini-série de Steven Spielberg et de Tom Hanks, qui a donc remporté 2 Emmy Awards.
Meilleure réalisation et meilleure mini-série.
2 Emmy pour une mini-série, c'est pas ce qu'on voit de ces
passés. Couramment, non, c'est vrai que c'était pas mal. Et surtout, c'est tout ce que les gens et tout ce que les critiques ont écrit dessus qui était assez intéressante. Parce que c'est une série qui a vraiment défrayé la chronique, comme on peut dire.
Ceci dit, on va quand même pas passer le cirage. On va l'analyser comme on analyse chaque semaine les séries. On va voir les points positifs et les points négatifs. Parce que oui, il y en a. Sarah a réussi à en dégoter quelques-uns. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le dossier.
Tout d'abord, on va présenter un petit peu la chose. Tom Hanks et Steven Spielberg sont passionnés de Deuxième Guerre mondiale, on le sait depuis la liste Schindler pour l'un et Il faut sauver le soldat Ryan pour l'autre. D'ailleurs, dans une interview accordée à la BBC, Tom Hanks, qui est quand même le créateur en tant que tel, c'est lui qui a eu l'idée de cette série, disait que selon lui, c'était la plus grande génération, la génération des gars qui avaient été combattre en Europe. Et que lui voulait donc donner un visage humain aux soldats et essayer de faire comprendre l'horreur de la guerre et non pas de mettre en valeur tous les combats aériens, etc. Ça donne une mini-série en 10 épisodes d'une heure, produite par HBO. Donc c'est la chaîne qui ose faire des choses un peu différentes, comme Sex and the City notamment, ou Six Feet Under.
Les Sopranos, toutes les séries qui cartonnent effectivement pour le moment. La chaîne a voulu se baser sur des séries un peu différentes et que le pari a été plutôt gagné.
En tout cas, pour Frères d'Armes, le pari a coûté très cher. C'était un budget colossal de 120 millions de dollars. Et à l'époque, c'était le budget le plus colossal que la chaîne avait mis dans une série, dans une mini-série. Ça raconte quoi, cette série? Ça raconte la guerre de la Easy Company. La Easy Company, qui est une troupe aéroportée, donc les parachutistes, qui fait partie de la 101e aéroportée, qui a été créée en juillet 42 et qui va mourir avec la fin de la guerre, qui sera pas remise en activité après, même si la 101e, elle, sera mise plus tard en activité, notamment au Vietnam. Donc on les voit du début, de l'entraînement à Camp Tocoa jusqu'à la fin de la guerre en Autriche. Au début, ils sont sous les ordres d'un sadique qui s'appelle Herbert Sobel et qui est joué par David Schwimmer.
Qu'on connaît bien, qui est plutôt étonnant dans son rôle, voilà. Hein, parce que le rôle de gentil Ross dans Friends passait à ce rôle de vraiment teigne, méchante, ça lui change vraiment son répertoire.
Ouais, il jouait très bien, je trouvais. Donc on passe des ordres de ce sadique aux ordres d'un leader très charismatique qui est Richard Winters, et qui lui réussit à se faire respecter des hommes alors que Sobel ne savait que se faire détester. On a droit au débarquement de Normandie, à la prise de 40 ans, à l'opération Market Garden en Hollande, à la bataille des Ardennes à Bastogne, la prise du nid d'aigle de Hitler en Allemagne, la libération des camps, et puis l'Autriche. Et la Easy Company était même à deux doigts de repartir au Japon si la guerre ne s'était pas arrêtée. Ils sont de tous les fronts et c'est pour ça en général qu'on choisit les héros, ce sont ceux qui ont fait tout. Dans ce cas-ci, la Easy Company était une des compagnies qui a perdu le plus d'hommes. Je pense que c'est 150% de pertes par rapport à l'effectif de départ. Il faut savoir que tous ces faits-là sont réels et que tous les gens dont on parle dans la série sont également réels.
Oui, parce qu'on pourrait se poser la question de savoir est-ce que ça a été romancé, est-ce qu'on a rassemblé plusieurs compagnies en une seule. Parce que c'est vrai qu'on se dit, ils ont fait tout ça.
C'est too much.
Ça a l'air tellement énorme. On se dit, ils ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas eu la victoire. Mais ils continuent avec la bataille suivante, alors qu'on pourrait croire qu'ils vont être envoyés au pays, justement. Et pas du tout. Ils continuent. En fait, c'est la vérité.
En fait, c'est tiré d'un bouquin d'un historien qui s'appelle Stéphane Ambrose. Le bouquin s'appelle Frères d'Armes. Ça vient d'une citation de Shakespeare, d'ailleurs, Frères d'Armes, dont je ne me souviens pas du tout, mais ce sera sur le site. Et en fait, lui, il a interviewé tous les survivants de la Easy, y compris Richard Winters. Il a été tout de suite très impressionné par l'amitié qui reliait ces hommes-là. Donc il préparait un bouquin sur le jour J et il s'est dit, je vais faire un bouquin sur cette compagnie. Donc il a interrogé tous les survivants, il a lu leurs mémoires de guerre, leurs journaux intimes, les lettres, il a inspecté leurs armements, leurs uniformes, etc. Et puis c'est un travail que Tom Hanks et Spielberg ont eux aussi repris, parce que non seulement ils ont lu son livre et d'autres livres, mais eux aussi sont allés trouver tous ces anciens soldats pour voir ce qu'ils avaient pensé de telle ou telle situation, de ce qu'ils avaient vécu.
Et certains participent d'ailleurs à la mini-série, puisque en introduction à la mini-série justement, il y a les interviews de certains vétérans.
Il faut savoir qu'ils ont assez apprécié le travail sur sur la mini-série. Stephen Ambrose aussi, qui a déclaré qu'il aimait beaucoup ça. En fait, il a eu la chance de voir la mini-série avant de mourir, puisqu'il est mort d'un cancer il n'y a pas très très longtemps. La première a eu lieu en Normandie, d'ailleurs. HBO fait venir tout le monde en avion. Les acteurs étaient d'ailleurs assez nerveux, parce que pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois qu'ils campaient des personnages réels, et qu'ils allaient voir la fiction tirée de ça, à côté d'eux. Il y en a même un qui a dit, je pense que c'est Neil McDonough, qui a dit « Je me trouvais à côté d'un vieillard de 80 ans, mais si j'avais raté mon coup, je sais qu'il m'en aurait foutu une.
» Ça se comprend en même temps, parce que bon, c'est pas non plus l'histoire banale de quelqu'un qu'on raconte, c'est vraiment une histoire tragique et avec beaucoup de morts.
Tout ça est servi par une musique assez magnifique,
oui.
Je l'ai dit tout à l'heure, et le générique notamment est absolument splendide.
Avec aussi des images très très fortes.
Oui, un générique en fait qui est fait d'images fixes. C'est la première fois moi que je vois ça, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ça à d'autres moments. Et on dirait des images toutes écornées et toutes éraflées de l'époque. Et tiens justement, ça me permet une transition assez magnifique. Puisque justement Spielberg et Hanks ont voulu reconstituer le mieux qu'ils pouvaient ces moments de guerre. Ils voulaient sonner juste, ça signifie déjà de s'appuyer sur des personnages réels. Et ça on vient d'en parler, donc les personnages sont réels. Mais en plus de ça, tous les faits ont déjà été recoupés, vérifiés par un historien Capignon-sur-Rue. Puisqu'il a travaillé au centre Eisenhower et ça c'était Stéphane Ambrose, et donc eux n'avaient plus besoin de vérifier tous ces faits-là déjà. À côté de ça, ça signifie qu'ils ont aussi reconstitué tout ce qui était le cadre de l'époque, c'est-à-dire les décors d'après des photos d'époque, c'est-à-dire les uniformes de chacun des soldats. Et alors là, il faut savoir que certains d'entre eux avaient des goûts un petit peu bizarroïdes. J'ai lu le livre de Forrest Gump, qui est un des membres de la Easy Company, qui n'apparaît pas dans la série, mais qui était passé maître dans l'art de l'uniforme pas conforme du tout, donc qui piquait les vestes des officiers, par exemple, ou les vestes d'autres aviateurs, et il cousait des insignes qui n'étaient pas conformes du tout, mais ça aussi, ils ont reconstitué ses uniformes à lui avant de ne pas s'en servir. Mais s'ils l'ont fait pour lui, ça veut dire qu'ils l'ont fait pour tous les autres aussi. Certains avaient aussi tripoté les armes, les avaient rendues semi-automatiques. Ils ont aussi rendu ça. Les tanks, on raconte beaucoup cette histoire d'un tank. En fait, les tanks allemands de l'époque avaient plus d'essieux de chenilles que les tanks actuels. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est des historiens. Et en fait, ils sont amusés à découper des tanks actuels. En général, ils reprennent les tanks et ils font la croix allemande dessus. Là, ils en ont repris un, ils l'ont découpé, ils l'ont rallongé, ils l'ont ressoudé et tout ça pour que ça sonne totalement exact. Non seulement ça signifie d'avoir le cadre qui est reconstitué, mais ce qu'ils voulaient, on l'a déjà dit, c'est reconstituer aussi l'amitié qui reliait ces gens-là. La manière dont ils avaient réagi dans telle ou telle situation, et notamment à Boston, qui a été l'un des théâtres les plus sanglants et les plus difficiles durant la Seconde Guerre mondiale. Pour ça, ils se sont appuyés sur les témoignages, non seulement que Stephen Ambrose avait recueillis, mais qu'eux aussi ont recoupé une deuxième fois. Et tu me disais tout à l'heure, ce sont ces témoignages-là qu'on voit en entrée de chaque épisode.
Ne cherchez pas dans la série un coin de Boston que vous connaissez, parce que ça n'a pas du tout été tourné là. Hein.
Non, ils auraient eu un peu de mal avec le Mardasson et les beaux mémoriaux qui existent en ce moment, c'est un peu compliqué. Tout a été tourné en Angleterre, en fait, dans un site qui sert souvent pour les films de guerre, notamment. En fait, les acteurs ont tous téléphoné aux personnages qu'ils incarnaient pour savoir, en lisant le script, pour pouvoir leur demander, tiens, à Boston, vous avez réagi comment? Et quand vous avez rencontré telle personne, vous avez fait quoi? Etc, etc. Donc ça sonne assez juste. Et pour être sûr que ça sonne encore plus juste, les acteurs se sont tapés, je pense, un mois de préparation physique, de GI.
Ça se voit à l'écran, hein, parce que quand on voit David Schumer, par exemple, à l'écran dans Friends, et quand on le voit dans Band of Brothers, il a littéralement fondu.
Hein. Il a pris de la musculature.
Ouais, et il a fondu aussi.
Alors les pauvres, on leur a rien épargné. Hein. Levé à 5h du matin, la bouffe de peloton, les exercices, les pompes, les cours sur la stratégie, les simulations de combat, même les simulations de saut depuis les tours de 80 mètres, ils se sont tout pris sous les ordres du capitaine Deldai, qui en fait est un ancien soldat qui a servi au Vietnam et qui est devenu consultant pour pas mal de films, notamment Platoon, né un 4 juillet, et Il faut sauver le soldat Ryan, puisque l'équipe n'a pratiquement pas changé hein, depuis le film. Ils devaient aussi s'appeler par leur nom de soldat, donc c'était pas David Schwimmer, mais c'était Herbert Sobel. Donc on peut imaginer que le fait d'être mis dans ce cadre-là fait aussi qu'on acquiert certains gestes et certains réflexes, et peut-être aussi des acteurs qui ne se connaissent pas lient des liens entre eux comme les vrais soldats.
C'est vraiment du jeu de rôle en grandeur nature, c'est plus réellement un tournage de série télévisée, ça devient du jeu de rôle en grandeur nature. Et pendant combien de temps a duré le tournage?
Je crois qu'ils ont fait les 10 épisodes d'affilée, ça a dû durer 6 ou 9 mois, un truc comme ça. Il y a encore une chose qui renforce le côté reconstitution, ce sont les images qui sont délavées. Donc c'est un peu comme je disais tout à l'heure, les vieilles photos dans le générique, bah, durant toute la série, on n'est pas dans du noir et blanc, mais on n'est pas dans du couleur affab non plus.
C'est pas de la couleur propre, on va dire. C'est, voilà. C'est de la couleur travaillée, mais c'est pas la couleur qu'on a l'habitude de voir à la télévision.
Merde !
une raison obscure, à ce moment-là, dans ce trou de souris à peine creusé, je me revoyais enfant le jour de la fête de l'indépendance. J'adorais bricoler mes propres pétards, je fabriquais des fusées. Je faisais sauter des paquets de terre, des bouteilles, des ballons de farine. Toute l'année, j'attendais cette fête. Ce jour-là, j'ai assisté à la plus impressionnante, à la plus terrifiante démonstration de puissance de feu de ma vie. Je n'aurais sûrement pas ri si je m'étais aperçu de ce qui était arrivé à Jotoy.
J'allais vous parler du casting, ceci étant dit.
C'est quand même 500 acteurs et plus de 10 000 figurants, rien que pour cette série.
Rassurez-vous, on ne va pas parler des 500 ici.
Non, parce que sinon on n'en sortirait pas. J'ai une petite impression qu'on va parler de Damian Lewis.
Impression correcte. Non, mais d'abord, je voulais vous dire que tous les acteurs sont relativement inconnus, parce qu'il en fallait vraiment beaucoup. C'est vrai que pour le groupe de Lazy en tant que tel, je pense que c'est une bonne vingtaine, et donc le seul moyen de faire, de s'en sortir pour une production, et de baisser le coût, c'est d'avoir des gens pas très connus. Et d'un autre côté, c'est très intéressant, parce que ça nous permet aussi de pas avoir d'a priori quand on les voit apparaître à l'écran.
Et puis, je sais pas si ça a été fait exprès, mais ça donne aussi l'impression que la star, c'est la compagnie, et pas justement un seul personnage. Ça nous ramène au héros multiple.
Certains d'ailleurs ressemblent aux soldats réels qu'ils ont incarnés, je pense notamment à Billy Garnery par exemple, et c'est assez intéressant quand on voit les photos. Je sais pas s'ils ont pensé à ça quand ils ont fait le casting. Alors le héros en fait c'est Richard Winters, qui est incarné par Damian Lewis.
Tiens, mais qui est donc Damian Lewis? Parce que c'est un peu l'inconnu qui arrive en star lors du tournage.
Mais je pense qu'il a été lui-même assez étonné d'avoir le rôle. D'abord, il faut savoir que c'est un anglais, donc normalement il a l'accent anglais, non pas du tout l'accent américain. Or, il a réussi à prendre l'accent américain pour le rôle. Tom Hanks a dit que dès qu'il avait vu, il avait su que ce serait lui, parce qu'il se dégageait quelque chose qui devait le rapprocher de Winters. Hanks connaît bien Winters aussi, il faut savoir. En fait, l'acteur, on le connaît pas nous, mais il provient du théâtre shakespearien, il est relativement connu en Angleterre. Il a tourné dans Warriors, qui est une autre série, mini-série sur la guerre, qui a reçu aussi des critiques dithyrambiques. C'est passé sur Arte il n'y a pas très longtemps. Mais à part ça, il jouait dans des soap-opéras, Hearts and Bones par exemple, ou la saga des Forsythe. On demande à voir. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi n'ont-ils pas donné le rôle du héros à David Schwimmer, qui est plus connu finalement? À mon avis, il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être que tout simplement, il n'avait pas le temps de passer six mois sur le tournage.
Il était vraiment pris par le rôle de Ross dans Friends. C'est peut-être aussi pour ça qu'on ne le voit que sur certains épisodes et pas dans l'intégralité. Ce qui fait parfois même un peu bizarre.
Mais ça, c'est réel. Sobel a disparu pour du vrai. Donc ça colle à la réalité.
Parce que dès le départ, on s'imagine que c'est Sobel qui sera le héros de l'histoire. Et finalement, après le premier épisode, ciao, bye bye, on ne le voit plus.
Ouais,
c'est vrai que ça coupe un peu le...
Ben moi, je trouve que c'est ça qui est justement très intéressant. C'est le fait que c'est vrai que... Vous savez tous que normalement le héros doit arriver dans les 15 premières minutes d'une série ou d'un film. Et que donc l'acteur qu'on voit apparaître au début, en général on se dit c'est le héros, surtout quand c'est une célébrité. Or dans Frères d'Armes, c'est la seule célébrité qu'on voit dans les 15 premières minutes. Et je pense même que Winters n'est pas tout à fait présent au début. Donc on se dit super, voilà le héros. Et on se rend compte assez vite que c'est un sadique de premier ordre. Mm-hmm. Et petit à petit, c'est Richard Winters qui prend la place. Et donc, moi, personnellement, c'est la première fois que je vois une série qui parvient à nous faire passer un faux héros d'abord et donc à déjouer tous les codes normaux, entre guillemets.
Ils ont repris, en fait, le concept mis en place par Alfred Hitchcock lors du film Psychose, où on tue l'héroïne à la moitié du film.
Donc, c'est très bien. Ça veut dire aussi que les gens parviennent finalement à mettre en place des structures où c'est pas parce que tu es célèbre et que ce n'est pas parce que tu arrives dans les 15 premières minutes que tu es d'office le héros. Je trouve ça assez intéressant. Et on l'a dit tout à l'heure, David Schwimmer qui tient un rôle de sadique et qui le tient vraiment très bien. Moi, j'adore le contraste qu'il y a avec Ross Geller. C'est pas le cas de tout le monde sur internet, il y a pas mal de monde qui n'ont pas du tout apprécié ça, mais moi je trouve que c'est ça qui fait la qualité d'un acteur.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais quand même rajouter que c'est quand même à voir en VO, parce que la voix de Ross, justement parce que David Schwimmer en VF a conservé la voix qui lui est attribuée dans Friends, ne va vraiment pas du tout avec le personnage. Je trouve que la vraie voix de David Schwimmer est beaucoup plus en phase avec la mini-série.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces acteurs? Il y en a un certain qui s'appelle Neil McDonough, que je connaissais pas du tout, mais qui fait partie des acteurs que j'ai bien aimé dans cette série-là et qui joue en fait le rôle de Buck Compton. Je ne le connaissais pas avant et j'ai pas trouvé des masses d'infos sur lui sur internet, sauf que maintenant il joue dans une série qui est produite par la NBC, qui est un policier qui s'appelle Boomtown et qui apparemment a une critique assez dithyrambique aussi, ça a l'air assez chouette.
C'est le grand succès de la rentrée 2002-2003 aux États-Unis, effectivement.
Ouais. Alors il est rejoint par un autre soldat de l'Easy pour cette série-là, Boomtown. Il est rejoint par Donnie Wahlberg. Ce nom ne me disait rien du tout avant, son visage non plus, mais c'est tout simplement parce que j'étais pas une fan des New Kids on the Block.
Et oui, c'est le frère de Mark Wahlberg, le frère de Marky Mark, donc c'était l'un des chanteurs, enfin des chanteurs, l'un des danseurs interprètes des New Kids on the Block, le boys band avant l'heure.
Le premier boys band du siècle, comme quoi il y a moyen de faire partie d'un truc J'aime pas du tout les boys bands, mais là, il s'en sort bien. Franchement, c'est vraiment une bonne surprise. Alors, on aperçoit aussi Scott Grimes qui joue Will, le copain de Bailey dans La Via 5, qui a un rôle assez intéressant et qui lui aussi change du tout au tout du soap opéra et qui passe dans un personnage qui est un jeune homme qui peu à peu est très endurci par la guerre et qui obtient une carapace. Et encore un rôle assez intéressant. Mais tous les acteurs sont excellents, je trouve.
Le casting a vraiment été très très réussi.
Nom de Dieu, mais que faites-vous avec ma compagnie? Vous êtes en retard et vous permettez aux hommes de désobéir à des ordres donnés.
Pas d'excuses, lieutenant.
Vous me décevez beaucoup, lieutenant. C'est pas la Dog Company, c'est pas la Fox Company. C'est la Easy Company. Et sous mon commandement, cette compagnie sera la première et la meilleure de ce régiment. Je veux le nom de 6 hommes, leurs infractions et votre rapport disciplinaire sur mon bureau pour 1h30. C'est clair?
Quelles infractions, lieutenant?
C'est à vous de les trouver.
Herbert Sobel dans ses œuvres sadiques. Je tiens à dire quand même que la plupart des soldats de la Easy, parce que c'est un personnage réel, donc si jamais ses descendants écoutent l'émission, vont se dire quelle horreur. Mais en fait, la plupart des soldats ont dit qu'il avait détesté, mais que c'était grâce à lui qu'ils étaient devenus la meilleure compagnie des États-Unis. Donc voilà, je pensais que ça devait quand
même
être
dit. Parce que lui, en fait, n'était pas réellement un excellent soldat sur le terrain, mais c'est vrai que quand on y repense et quand on revoit l'entraînement qu'il leur a fait subir, et notamment dans cet épisode-là où il montre il faut absolument sur le terrain, si vous ne faites pas ça, ça risque de vous coûter la vie. Et c'est vrai que s'il n'avait pas donné cet entraînement aussi dur, probablement qu'il y aurait encore eu plus de victimes, et là ça aurait peut-être été 200% de la Easy Company qui aurait été décimée pendant la guerre.
Alors le feuilleton est absolument magnifique, le scénario, les systèmes de personnages, le casting, la réal, les décors, le son, la
les
musique,
images.
Tout est absolument haut de gamme. Personnellement, j'ai été scotché au fauteuil pendant 10 heures.
Non, il y a pratiquement... moi je dirais 20. Parce que tu l'as regardé au moins une deuxième fois.
En fait, j'ai regardé 3 fois, donc 30.
Oui, donc 30.
Donc, il n'y a pratiquement rien à reprocher à la série. Moi, j'ai un seul regret, c'est l'américanisme extrême qui soigne de là. Ok, les Américains sont venus nous sauver à la guerre 40-45 et je ne reviens pas là-dessus. Loin de moi cette idée. Et la Easy Company était une des meilleures des compagnies, et ça, je ne reviens pas là-dessus non plus. Je ne demande pas, comme certains sur Internet, notamment les Anglais, qui nous demandaient qu'on voit plus d'autres compagnies, d'autres soldats, d'autres nationalités. Moi, je ne demande pas ça. Je ne demande pas non plus qu'on mette en scène la résistance ou les civils, parce que ce n'est pas l'objet de la série. À la limite, même, on les rencontre dans leur lien entre eux, donc on ne les rencontre pas avec d'autres personnes. Ce qui peut faire comprendre, à la limite, qu'on ne voit pas Patton, le général Patton, qui pourtant les a retirés de leur trou à rat à Bastogne. Mais il y a quand même des choses qui m'ont choqué, et c'est par exemple le fait que la seule image qu'on ait de la résistance dans toute cette série, c'est quand les résistants rasent le crâne des femmes qui ont couché avec les Allemands. Ça se passe à Eindhoven. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais si on devait choisir une image pour caractériser la résistance, surtout la résistance hollandaise qui a été hyperactive, c'était peut-être pas la meilleure. Les Anglais, eux, qui perçoivent assez bien ça, moi je le perçois pas très bien, mais se sont plaints de l'accent en fait du conducteur de char aussi dans un des épisodes, qui prend d'ailleurs la décision la plus débile qui soit. Je pense que n'importe quel soldat ne la prendrait jamais. Il prend la décision de continuer malgré qu'on lui dit qu'il y a un char ennemi en face. Mais en plus de ça, il le prend avec l'accent typiquement anglais que les Américains collent toujours sur les Anglais, ce qui a fortement énervé les Anglais. Et alors, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que tous les gens qui sont extérieurs aux Américains sont soit débiles comme les militaires anglais, soit agressifs et barbares comme ceux de la résistance, soit des victimes, les femmes qu'on rase, le papa et le gamin qui se cachent et à qui on donne du chocolat, ou les femmes rasées qu'on croise continuellement le long de la route, comme s'il y avait que ça en Europe, comme s'il y avait que des connards et des anciennes salopes. À deux exceptions, ceci dit. La première, c'est l'infirmière à Bastogne, qui donc est dans un hôpital américain, qui est dans l'église et qui se fait bombarder à la fin de l'épisode.
Est-ce qu'on retrouve son foulard? Ça, c'est la question.
C'est Eugène Roux qui reprend dans sa poche. Et en fait, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas s'ils étaient au courant de ça, mais il y a une infirmière qui a réellement existé, qui s'appelait Renée Lemaire et qui était à Bastogne et qui a sauvé les blessés parce qu'elle travaillait à l'hôpital américain, qui s'est réellement fait bombarder. Et elle, par contre, elle est caractérisée positivement. Et alors ça, c'est plus étonnant. Les autres personnes qui sont caractérisées personnellement, ce sont les Allemands eux-mêmes, dont on dit qu'ils sont courageux et qui déblaient dès que les soldats sont passés et qu'on a libéré une ville. Ils sont déjà en train de déblayer et à reconstruire. Et c'est l'épisode où on les voit notamment jouer de la musique en rue. Alors, c'est étonnant et ça l'est pas, parce que quand on veut se glorifier soi-même, on glorifie l'ennemi. Si l'ennemi est très bon et qu'on parvient à le vaincre, c'est qu'on est encore meilleur, mais... Moi, je voudrais juste dire à Hanks et à Spielberg que les vrais héros n'ont pas besoin qu'on écrase tout ce qui est autour pour être des vrais héros. Et je pense que les mecs de l'Asie n'avaient pas besoin qu'on rabaisse la résistance et les civils de l'époque.
Donc ça, c'est plutôt le morceau qui passe pas vraiment.
Ouais. Mais et d'ailleurs, je suis pas la seule à penser ça. Mmh. Il y a plein de sites sur lesquels les Britanniques ont vraiment été très fâchés parce que la BBC a en partie contribué au budget et c'est pour ça que ça s'est fait en Angleterre. Tony Blair a d'ailleurs appuyé pour que ça se fasse dans ce sens-là et donc eux s'attendaient manifestement à avoir des soldats britanniques beaux et forts. Notamment dans Market Garden, parce qu'il faut savoir qu'ils ont quand même assez perdu d'hommes dans cette opération en Hollande. Voilà. Ceci étant, c'est une série qui vaut vraiment la peine et qui est extrêmement bien faite.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.